Radio Grenouille.
Bonjour à vous, soyez les bienvenus sur Radio Grenouille. Aujourd'hui, direction Martigues, sur la rive sud de l'étang de Berre. La Grenouille vous emmène à la rencontre de Gilles Boucart, le directeur du Théâtre des Salins, scène nationale. Un homme passionné et engagé tout entier dans la mission qu'il s'est fixée, ouvrir et rassembler. Voilà donc un entretien au cours duquel nous déflorons les lignes fortes des propositions artistiques de la saison, mais dans lequel nous parlons aussi de ses inspirations, de son rapport à la citoyenneté et d'écologie. Bonjour Gilles Boucart.
Bonjour.
Vous êtes donc le directeur du Théâtre des Salins à Martigues. Vous, vous êtes né du côté de Dunkerque. Vous avez travaillé pendant 12 ans à la scène nationale de Maubeuge. Et puis ensuite 10 ans à la Maison des Arts, scène nationale de Créteil. Et vous voilà à Martigues. Vous avez pris la suite d'Annette Breuil à partir de septembre 2013. Ça veut dire quoi pour vous être à la tête d'une scène nationale ?
Bah évidemment que c'est une mission, déjà une mission de service public, hein, puisqu'on a une délégation de service public et du ministère de la Culture et de la ville où on est, donc pour moi la ville de Martigues, et pour moi c'est important. C'est important et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, et pas, j'aurais pu travailler dans une entreprise privée, mais moi ce qui m'intéressait c'était évidemment la culture, mais aussi d'être au service, donc d'être à la tête d'une scène nationale, c'est pour moi une vraie mission. Alors une mission évidemment de programmation, c'est ce qu'on connaît le plus de notre métier, puisqu'on sort notre programme et c'est un peu là-dessus qu'on communique, mais c'est aussi pour moi tout ce qui est derrière, c'est-à-dire toute l'action culturelle et l'action publique qu'on peut mener autour de cette programmation avec l'ensemble de la population, c'est-à-dire à la fois notre public, c'est-à-dire le public qui vient, mais pour moi le public c'est aussi celui qui ne vient pas, c'est l'ensemble des habitants, c'est l'ensemble de la population, à la fois pour leur faire découvrir ce qu'on fait et les ouvrir à des choses qu'ils ne verraient pas forcément.
Comment est-ce que vous décririez les caractéristiques, les problématiques locales ici à Martigues ?
Mais je pense qu'il n'y a pas de problématique. Déjà, ce terme est un peu dur. Il n'y a pas de problème déjà à la base, et il n'y a pas de spécificité non plus. Effectivement, moi je viens du nord, je suis passé par la banlieue parisienne avant d'arriver ici, et je pense que évidemment la façon de travailler est pour moi la même, les envies sont les mêmes. Après, il faut évidemment s'adapter. On est dans des régions différentes, on est dans des cultures différentes, des manières de réagir différentes. Mais pour moi, le fond est le même. C'est à nous à nous adapter, à adapter notre discours. Mais les artistes, par exemple, qu'on peut voir à Martigues, c'est des artistes que j'ai programmés à Créteil, que j'ai programmés à Maubeuge. Alors, il y a des choses évidemment différentes. Hein. Il faut savoir s'adapter, mais aussi, surtout, adapter son discours et aussi se nourrir du territoire où on est. C'est-à-dire qu'il y a aussi des artistes qui vivent ici et qui peuvent nous apporter beaucoup.
Et c'est quoi la touche Gilles Boucart, alors, selon vous ?
Ma touche, c'est vraiment pour moi une réelle volonté d'ouvrir à tous les publics. Et j'ai démarré d'ailleurs le métier quand j'étais à Maubeuge en tant que relation publique. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Je pense que je me considère moi comme un médiateur entre le public et les artistes. C'est-à-dire à une place finalement qui doit être une place relativement discrète. C'est-à-dire que si les choses se font bien, on ne doit pas nous voir. Gilles Boucart, on ne doit pas le connaître, on ne doit pas le voir. À partir du moment où j'ai présenté les artistes et le public, le reste se fait seul et moi je dois disparaître. Et je crois que c'est vraiment ça. J'essaie d'être le plus discret possible et de provoquer ces rencontres qui ont toujours après un impact beaucoup plus important que tout ce que je pourrais dire.
Vous mettez aussi le focus sur le rôle des nouvelles technologies, pas uniquement numériques, mais aussi celles tirées des industries lourdes du territoire environnant, dans le spectacle vivant, par exemple, avec la nuit industrielle. Vous pouvez peut-être nous en dire deux mots.
Oui, parce que pour moi, on est à la fois vu dans le spectacle vivant comme quelque chose d'un peu archaïque. On pense tout le temps, quand on pense théâtre, quand on pense danse, on voit toujours les décors peints, les acteurs, les actrices en crinoline, etc. Voilà. En tout cas, pour les gens qui ne fréquentent pas les lieux culturels, ils ont cette vision-là. Ils ont la vision du que sais-je quand on était à l'école avec les photos. Voilà. Le théâtre, c'est plus du tout ça. C'est complètement différent. Ça s'est nourri de toutes les nouvelles techniques, de toutes les nouvelles technologies, de toutes les nouvelles façons de parler, de s'exprimer. Et on est sur un territoire, effectivement, aussi un territoire industriel, Martigues, où on a une industrie qui est l'industrie du début du siècle dernier et qui a cette vision aussi un peu archaïque, c'est-à-dire que c'est de l'industrie lourde qui existe depuis longtemps et or elle s'est renouvelée, on va aujourd'hui dans une raffinerie, tout est automatisé, tout est dirigé par ordinateur, etc. Or on a toujours cette vision de l'industrie lourde, polluante, alors qu'elle pollue plus ou moins, on va dire, depuis longtemps. Enfin, on travaille vraiment sur les sujets. C'est-à-dire que quand je dis elle pollue plus, ben évidemment, on sait que elle continue à polluer, mais elle s'est aussi posé la réflexion, par exemple, de l'écologie et du développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus envoyer tout ce qu'on veut et dans l'atmosphère et dans les temps de mer. On est bien obligé d'y réfléchir. Et ça, c'est important pour moi aussi.
D'ailleurs, à ce sujet, vous avez accueilli il y a peu de temps le comité des ambassadeurs de l'étang de Berre, présidé par Robert Guédiguian. C'était le 11 octobre dernier. Donc, ce groupe de soutien va appuyer la candidature pour l'inscription du site de l'étang de Berre dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, qui se décidera en 2020. Et bon, d'une part, l'initiative ne fait pas l'unanimité. On a pu le voir notamment par des retours du maire de Marignane, Gaby Charroux, qui semble un petit peu s'y opposer. Et à l'inverse, donc, avec l'accueil du comité, on dirait que le théâtre, sur ces questions-là, se positionne, quoi, se rallie du côté du oui.
Alors oui, moi je me rallie du côté du oui, effectivement, puisque cette initiative, d'une part, a été prise par le maire de Martigues au départ, d'essayer de rallier, mais pour moi aussi, et c'est un peu, je rebondis un peu sur tout ce que je disais avant, pour moi c'est aussi d'imaginer l'avenir, c'est-à-dire c'est pas uniquement de considérer l'étang de Berre pour ce qu'il est aujourd'hui ou ce qu'il a été avant, mais c'est aussi pour ce qu'il va devenir. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur un endroit qui relie tout le côté patrimonial. Cette région est née autour de l'étang de Berre, s'est développée autour de son étang, a amené les industries, mais il y a aussi tout cet aspect écologique qui est important. Donc à un moment, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants demain? Qu'est-ce qu'on va laisser? On va leur laisser évidemment du travail parce qu'il y a les industries qui vont sans doute évoluer, qui vont se transformer, qui vont... Voilà, mais l'étang de Berre, c'est aussi le travail qui a permis notamment à des villes comme Martigues d'exister, de continuer à exister, qui permet d'avoir un théâtre à Martigues. C'est aussi parce qu'il y avait du travail, qu'il y avait des industries, mais c'est aussi tout cet aspect écologique, c'est-à-dire que l'étang de Berre, on y travaille depuis longtemps sur cet aspect écologique qui à un moment où on pouvait plus se baigner dans l'étang de Berre parce qu'il était trop pollué, qu'à un moment on pouvait plus y pêcher parce que les poissons ils pouvaient plus y vivre à cause de la pollution et à cause de l'eau douce. Voilà, c'est qu'à un moment il faut laisser à la fois du travail aux gens qui vont arriver et aux enfants qui vont arriver demain, mais il faut aussi leur laisser un monde vivable. Et je trouve que l'étang de Berre, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement on met au patrimoine de l'UNESCO. Non, on sauvegarde notre avenir.
Yo, Yo, I grab the song and hold it prouder when my soul is going sour. But we still keep the power with the gold cauliflower. They don't get to notice. Their generations left hopeless like your death approaches. Ain't got no time to smell no roses. They don't focus. And taken away from a nourished mind. I'm blurry eyed cause just a couple weeks ago my man Purish died. Old trouble son, bunny with punks to pull the gun. Try to fool the sun but you're young, dumb and full of cum. You gotta learn and bring the flavor like a good chef. They neighborhoods mess from following criminal footsteps. Until they run's done, they soul jumps up above us. Even though you shove much, I still show you love. But sometimes you gotta get back up. They say sometimes the pain just follows the act up. So don't need to fight with executions. Try to hide your restitution. Gotta find the best solution in your line of evolution.
We buy an ensemble, yeah we can fumble. Don't mean you'll crumble, cause we can get back up. Keep the light up, we gotta rise up. So we can YE some. Stay humble when the ground rumbles. In time to struggle, so we can get back up. Time for the realization that the power lies in the new generation.
Used, forsaken, abused. Frustration, views from manipulation, confused situation. Indoctrination has blocked the nation from the truth. Stop hating, it's not too late to choose greatness. You got blues, so did the ancient. Be patient, it's hard being the new generation. Be rude, undo the rules, use innovation. Things change since nuclear proliferation. Picking it up and living in love, there's really enough vibration. So giving a fuck when living is tough is more than a proclamation. And helping a brother who's stuck in the rough is all that we've got. The battle is God and Satan. We've gotta be strong through illness, inoculation, perspiration. Meditation and the hesitation, it's a revelation. For slavery, reparations, no laying blame, playing games. This is education, generations change. It's just fate's respiration.
Des questions écologiques et numériques. Vous avez aussi un penchant pour la danse contemporaine qu'on retrouve dans cette programmation. Je crois savoir que votre première découverte, c'était une fulgurance d'un spectacle de Wim van de Kebus et que vous programmez cette saison au Théâtre des Salins. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette première éclatante?
Oui, enfin éclatante, c'est-à-dire que j'ai découvert la danse contemporaine avec un spectacle de Wim van de Kebus qui s'appelait les Porteuses de Mauvaises Nouvelles assez tard, j'avais 18 ans, je connaissais le théâtre et un peu le théâtre contemporain, la danse j'étais plus sur des formes plus classiques et je vais voir ce spectacle de Wim van de Kebus et là je ne comprends rien. Je suis complètement resté en dehors. À la fin, je pensais pendant tout le spectacle que les spectateurs autour étaient dans le même état que moi. Et à la fin, la salle était debout. Et je pense qu'il n'y avait que moi qui était passé à côté. Et je me suis dit, je ne peux pas en rester là. Il faut que je continue. Et je suis allé voir non seulement tous les spectacles de Wim van de Kibus depuis, mais aussi énormément de spectacles de danse contemporaine. Et je pense que c'est la meilleure formation. C'est-à-dire que c'est pas très compliqué, mais il y a quand même quelques codes à savoir. Et dans mon travail de relations publiques au début, je me disais ça. Je me disais, c'est pas très compliqué, c'est accessible à tous. Il faut juste donner quelques petites clés pour comprendre. Et après, on prend le plaisir. Et c'est vrai que le fait d'aller voir, du coup, énormément de danse contemporaine m'a amené à être, on va dire, relativement connaisseur en danse contemporaine et surtout amateur. Et quand je dis amateur, ce n'est pas pratiquant, mais c'est vraiment dans le fait d'aimer ça.
Cette saison, donc, on retrouvera Wim van de Kibus au Théâtre des Salins le 28 novembre avec In Spite of Wishing and Wanting. C'est donc une star chorégraphe, Wim van de Kibus, et vous programmez des stars. Vous recevez bientôt Romeo Castellucci aussi, qui présentait son dernier spectacle au Festival d'automne, Democracy in America. Vous pouvez peut-être nous en dire deux mots, en tout cas de cet équilibre de programmation que vous fabriquez, recevoir des pointures dans leur domaine, et puis des choses plus confidentielles, des choses différentes, des décalages qui sont certainement les bienvenus aussi. Comment est-ce que ça se construit, une chose comme ça?
Mais déjà, entre, par exemple, Wim van de Kibus, effectivement, on va accueillir le spectacle qu'on va accueillir là n'est pas sa dernière création. C'est un spectacle qu'il a créé il y a 20 ans, qui remonte évidemment avec des autres danseurs. Voilà. Mais pour moi, c'est important de partir de là. C'est-à-dire que pour comprendre la création d'aujourd'hui, il faut faire référence à ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, voilà. C'est le répertoire, pour moi, quelque chose d'important. C'est-à-dire que le spectacle vivant, c'est pas du one shot. Ça doit rester dans le temps. On doit s'inspirer. Et tous les créateurs aujourd'hui s'inspirent. Et quand par contre, Romeo Castellucci, effectivement, on va accueillir son dernier spectacle, c'est sa toute dernière création. Mais pour comprendre où est Roméo aujourd'hui, il faut aussi savoir quelles sont ses sources d'inspiration qui sont à la fois pour Roméo dans l'art plastique, dans le théâtre et dans la danse. Et pour moi, c'est à nous aussi de donner ça. Alors quand on parle, évidemment là, on parle de deux stars confirmées. Mais ce qui est important aussi dans une programmation, c'est d'amener la création et la création d'aujourd'hui et d'amener les jeunes aussi, les jeunes créateurs aujourd'hui à pouvoir s'exprimer. Et on a ce travail-là aussi. Alors c'est vrai que quand on prend le programme des Salins, on va avoir ces stars comme ça qui vont émailler et les gens vont dire « Oh, c'est génial, au Salin, il y a des choses extraordinaires. » Ils ne vont peut-être pas s'arrêter sur des noms moins connus parce que ce sont des premières créations. Mais pour moi, ce sera ou pas les créateurs de demain et les grands créateurs de demain. Mais pour le savoir, il faut leur donner la chance aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire les choses. Donc on aide aussi beaucoup les jeunes créateurs en leur donnant nos espaces, en leur permettant de montrer parfois leur toute première création.
En parlant de compagnonnage, vous recevez tout au long de l'année de la vallée Bidiefono, qui est donc aujourd'hui l'une des figures de la danse contemporaine montante, en voie de confirmation du continent africain, un artiste engagé aussi, et que vous recevez donc tout au long de l'année. C'est dans cet esprit-là, disons, de créer sur du long terme et de sortir de la starification de la programmation.
Oui, et puis de la vallée Bidiefono, c'est un bon exemple parce que moi, je l'ai connu avant qu'il crée son premier spectacle. On a beaucoup, beaucoup discuté et je l'ai beaucoup accompagné. Et je dirais qu'il m'a beaucoup accompagné aussi parce que c'est important dans cette relation qu'on peut avoir avec les artistes. C'est qu'on est chacun dans des métiers différents. Moi, je suis dans un métier de directeur de théâtre, en relation, je disais tout à l'heure, avec les artistes et le public. Et on échange beaucoup. Et on échange beaucoup et on crée les choses ensemble. Et un moment de la vallée que j'ai aidé au début et dans sa toute première création, c'était important aussi pour moi qu'il arrive à mes côtés, au moins pendant une saison, et qu'on fasse les choses ensemble. Et c'est vrai que quand De La Vallée arrive ici, la première fois qu'il est venu, il m'a dit « mais j'ai l'impression d'être chez moi ». Oui, il est chez lui parce qu'il y a toute cette antériorité de relations qu'on a pu avoir. Et tous les artistes que j'accueille comme ça sur du long terme, c'est déjà des gens avec qui j'ai construit des choses avant. Donc quand on se retrouve, on sait pourquoi on est là et on sait pourquoi on a envie de faire les choses ensemble. Et De La Vallée, pour moi, c'était une évidence, et pour lui aussi, qu'à un moment, on puisse faire vraiment ce chemin sur du long terme et partager cette relation, évidemment, à la création artistique, mais aussi la relation avec le public, qui fait sans doute plus partie de mon métier. Voilà, puisqu'il va faire plein d'ateliers avec les gens dans les écoles, dans les conservatoires, dans les associations, etc. Et c'est partager nos envies, et pour moi, c'est ce qui est de fondamental.
Vous aimez la musique, Gilles Boucart ?
Pas du tout. C'était une blague, évidemment. Oui, bien sûr, j'aime beaucoup la musique, mais je dirais que je n'aime pas, si on regarde la programmation, je n'aime pas un style de musique en particulier. D'ailleurs, je n'aime rien en particulier. J'ai pas forcément un goût très affirmé en me disant « moi, c'est le jazz » ou « moi, c'est la musique contemporaine » ou « moi ». Non, pour moi, tout ça est très mêlé, en tout cas dans la musique. Je peux m'extasier devant un concert de jazz et certains noms, ou de la musique contemporaine, et à un moment, c'est juste ce qu'on ressent en écoutant de la musique, et évidemment, il y a une grosse programmation musicale au salon.
Une programmation musicale qui nous emmène à la fois du côté de l'Amérique du Sud avec Iliane Canisiares, que vous recevez le 24 novembre. On va aussi beaucoup du côté du jazz finalement et de la musique classique au moment où ces musiques se rencontrent avec le pianiste de jazz Yaron Herman, qui sera accompagné donc du pianiste David Gray Summer et de l'orchestre Geneva Camerata. Et puis vous recevez aussi, et j'ai envie de le mettre en avant parce que je l'aime beaucoup, Calypso Rose, qui présentera donc son album Far From Home, qui a fait le tour du monde concrètement avec cet album conçu avec la complicité de Manu Chao. On peut peut-être en écouter un extrait.
Ah bah oui, volontiers. Pour moi, c'est effectivement une grande artiste qu'il était temps de découvrir, parce que même si Calypso Rose, on la connaît depuis les années 60, elle n'avait pas vraiment son statut de star en France qu'elle a acquis très récemment, hein, je pense qu'il y a 2 ans, grâce à la complicité de Manu Chao. Et c'est maintenant une artiste reconnue et qui a 78 ans. Et j'aimerais bien être comme elle à 78 ans, avoir toujours cette pêche.
Et une victoire de la musique, des musiques du monde, l'année dernière. Abatina O sur Radio Grenouille.
Radio who you have there breaking down the door? Tina should have outlived us. Now we pray that she will forgive us.
Avec tous ces spectacles qui vont marcher à coup sûr, comment est-ce qu'on fait pour prendre des risques par ailleurs quand on est à la tête d'une scène nationale? Comment on prend des risques?
Eh bien, déjà, on ne se pose pas de questions. Moi, je ne me pose pas de questions sur le remplissage de la salle. C'est-à-dire que c'est pas mon but, ce n'est pas que la salle soit remplie. Déjà, c'est qu'il y ait du monde, évidemment. On ne joue pas devant des salles vides. D'ailleurs, on a un taux de remplissage exceptionnel. Hein. Tous nos spectacles sont quasiment pleins. Mais ce que j'ai envie de partager plutôt, c'est à la fois mes envies et pas forcément mes goûts, parce qu'il faut faire attention à ça, mais à la fois amener des choses au public et amener cette confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, je suis là depuis 4 ans, commencent vraiment à avoir confiance, savent que si je propose quelque chose, ce sera quelque chose de qualité, et aussi amener cette mixité dans le public, c'est-à-dire que c'est pas de se dire je programme ça pour tel public et telle autre chose pour un autre public. Non, c'est de mélanger, c'est d'amener les gens à découvrir. Et après, je dirais que le risque vient après et je n'y pense pas. C'est-à-dire que quand je programme quelque chose, c'est quelque chose que j'ai envie de faire et je me dis jamais je prends un risque. On me le retourne des fois en disant oh, donc, t'es courageux de programmer ça. Bah non, je suis peut-être inconscient, mais courageux, non. Je n'ai pas l'impression de prendre des risques. À partir du moment où on est devant une chose de qualité, elle doit être montrée.
Qui prend des risques selon vous là aujourd'hui dans la scène contemporaine? C'est quoi prendre des risques en tant qu'artiste aujourd'hui là?
Bah, prendre les risques, c'est déjà, et je pense que sur les scènes de théâtre, quand je dis théâtre, c'est danse, musique, etc. C'est là, enfin dans le spectacle vivant, je dirais que c'est sans doute l'endroit où, je ne sais pas si on peut si on prend des risques, en tout cas c'est là où on peut dire les choses, où on peut s'exprimer. Je crois que beaucoup de médias aujourd'hui sont bridés, sont brimés. Pas forcément politiquement, hein. On est quand même en démocratie et on a le droit de dire les choses, mais on va être coincé par l'audimat. Si je prends la télé, il faut faire de l'audimat. Donc on est coincé par ça et du coup, ben on peut pas tout dire et on doit pas tout dire parce que à un moment ça va vexer une partie des téléspectateurs ou des spectateurs. Nous, au théâtre, on peut. Et les artistes le savent. Ils ont cette liberté d'expression. Et ils s'en servent. Et j'espère qu'ils vont continuer à s'en servir. Donc, pour moi, c'est pas forcément prendre des risques, mais c'est laisser cette liberté d'expression que l'on peut avoir dans les théâtres.
À ce propos, vous recevez, par exemple, Même si c'est peut-être pas une prise de risque en tant que telle, au mois de mars prochain, vous recevrez les Chiens de Navarre avec Jusque dans vos bras, un spectacle qui est souvent en tout cas décrit comme une psychanalyse électrochoc de la France et qui convoque donc des personnages à la fois historiques et plutôt actuels dans un hammam. Donc ça va être un grand moment, j'imagine, pour le Théâtre des Salins de chaleur.
Alors, les Chiens de Navarre, oui, mais quand j'ai commencé à les programmer, c'est-à-dire quand ils ont commencé à exister dans leur tout premier spectacle, personne ne voulait les programmer. On trouvait que c'était de l'humour potache, que c'était déplacé. Et moi, je l'ai jamais pensé. Je pense qu'ils dérangeaient. Ils dérangent moins aujourd'hui parce qu'ils sont connus. C'est un peu des stars maintenant dans le théâtre. Au début, on était très très peu à les programmer. Dans les salles, il n'y avait pas grand monde. Voilà. On a tenu bon, on y est allé, et maintenant, évidemment, ça remplit les salles. Ça n'est pas un risque public, hein, on est sûr de remplir. C'est toujours un risque politique. Et d'ailleurs, le spectacle qu'on va accueillir là a fait, à sa création, une polémique à Lyon, voilà, qui a fallu déminer, parce qu'il voulait, c'est absolument pas ce qu'il voulait dire. Et voilà. Mais c'est toujours le cas où le dernier spectacle qu'on a accueilli, qui était des Chiens de Navarre, qui était juste après les attentats du Bataclan qui avaient eu lieu le week-end d'avant, et nous, on les avait le mardi. Et là, il y avait le Christ qui accueillait les spectateurs en leur disant que bah, sans doute qu'il... On allait lui poser des questions, et etc., et que malheureusement, il n'avait pas les réponses. Et ce genre de choses, c'est politiquement incorrect. Ils peuvent le faire, mais il faut savoir qu'ils ne sont pas accueillis partout encore, même s'ils sont des stars.
En arrivant au théâtre tout à l'heure, on s'est baladé dans l'espace librairie et on a vu donc beaucoup de propositions pour le jeune public, pour les enfants, des livres, des très beaux livres en plus de Claude Ponty notamment, toute une sélection plutôt fine et plutôt donc tournée vers le jeune public. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il faut très tôt ouvrir, éduquer, préparer à devenir un futur public de théâtre ? Comment vous le voyez-vous ?
Mais moi, je ne forme personne à être un public de théâtre, déjà. Je me dis, à un moment, je suis là pour ouvrir les esprits. Et évidemment, il y a des livres, on peut s'ouvrir les esprits par des livres, mais on peut aussi s'ouvrir l'esprit par autre chose, par le football ou par... voilà. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ne soit pas chez soi, enfermé, en disant la vie c'est chiant, il y a rien, je m'ennuie. Non, il y a plein de choses à faire. La vie c'est passionnant et il faut l'apprendre très vite. Et quand j'étais jeune et que je passais dans les classes, la première chose que je disais aux écoliers, aux lycéens, etc., j'ai dit moi, si vous venez pas au théâtre, je m'en fous. C'est pas un problème. Mais si vous aimez le foot, bah allez au foot, allez au match de foot, ou faites des courses automobiles. Mais ayez des passions. Ayez des passions. Et vivez vos passions surtout. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, évidemment, on s'intéresse aux jeunes, on s'intéresse aux enfants, on leur propose des choses. Tous les enfants de Martigues viennent minimum une fois par an au théâtre. Au-delà de ça, on fait des représentations jeunes publics aussi en tout public, c'est-à-dire que les jeunes parents, par exemple, il faut savoir que quand on a des enfants, hein, les gens qui en ont le savent, hein, c'est une sortie au théâtre, c'est compliqué. Il faut faire garder les enfants, ça coûte cher, etc. Donc à un moment de la vie, on n'y va plus. Le fait de faire ces séances tout public, on a un tout autre public qui vient, ce public qui ne peut pas venir le soir à 20h30, voilà, ou qui va venir mais avec ses enfants et qui ne peut pas venir seul. Et tout ça est important. Et le fait qu'on trouve beaucoup d'ouvrages pour le jeune public dans la librairie, bah c'est ça aussi. Et en fait, c'est le rayon qui marche le mieux. Parce que ces jeunes parents, quand ils viennent, ils n'ont pas souvent l'occasion d'aller dans les librairies du centre-ville. Donc, ils achètent les bouquins pour les enfants au théâtre. Et ça, évidemment, pour moi, c'est l'ouverture. Après, on lit, on vient au théâtre, on va au foot, on fait des courses automobiles. Pour moi, tout ça, c'est pareil.
Bon, et puis vous vous mettez au hip-hop, pas seulement cette année, mais notamment cette saison avec une collaboration avec le festival PLUF, donc qui sont des journées hip-hop et art en février prochain. Vous programmez donc notamment deux spectacles. Comment le hip-hop a pu trouver sa place dans votre projet artistique, ce qui n'est pas le cas partout?
Oui, on ne se met pas au hip-hop. Hein. Le hip-hop, quand même, est dans les théâtres, est rentré dans les scènes depuis très longtemps, hein, depuis une vingtaine d'années. Pour moi, c'est une évidence. Enfin, c'est une évidence. Elle n'était pas d'ailleurs au départ avec... moi, j'ai beaucoup travaillé avec la génération précédente des hip-hoppers, hein, qui étaient plutôt à l'extérieur, c'est du street art, donc n'étaient pas dans les théâtres et n'avaient pas forcément envie d'y rentrer d'ailleurs. Hein, ça a été une grande discussion en disant est-ce que c'est bien qu'à un moment on propose du hip-hop sur les scènes, est-ce que ça ne doit pas rester là où c'est aujourd'hui, c'est-à-dire à proximité du public à qui c'était destiné. Voilà, donc pour moi c'est juste une évidence. On y a travaillé, on y a réfléchi aussi de la manière dont le hip-hop devait accéder aux scènes, c'est-à-dire qu'au début, il faut savoir que on disait c'est très bien, vous faites du hip-hop, mais si vous voulez être dans les théâtres, il va falloir faire de la danse contemporaine. Donc on faisait faire des stages de danse contemporaine aux hip-hoppeurs. Pour moi, c'était une hérésie. C'est-à-dire que le hip-hop, c'est une chose en tant que telle. C'est un courant en tant que tel, et s'il est sur la scène, c'est en faisant du hip-hop, c'est-à-dire c'est pas en singeant de la danse contemporaine. Il y a quelques codes de la scène, évidemment, qui sont pas les mêmes que les codes de la rue, mais c'est tout. Après, il faut que ça reste ce que c'est et la discipline qu'on nous présente. Et à partir de là, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire que toutes mes programmations depuis 20 ans, il y a toujours eu du hip-hop.
Et si on parlait d'amour ? Avant de se quitter, vous participez à ce grand projet de MP 2018 qui donc pose la question, quel amour ? Alors quel amour, Gilles Boucart, pour le Théâtre des Salins ?
L'amour, et ce qui me plaît dans ce titre, justement, c'est qu'on ne parle pas d'amour. On se pose la question, enfin, c'est même pas une question, c'est un point d'exclamation, et pas une question, quel amour ? C'est-à-dire que chacun peut s'y retrouver. Évidemment, pour pouvoir vivre, exister, partager, nous partager avec le public, on a besoin d'amour. Mais l'amour, c'est à chacun de se l'inventer. C'est à chacun de savoir de quel amour il a envie de vivre, quel amour il a envie de partager, et pas de lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit vivre. Et ce que j'ai envie de faire ici, c'est ça, c'est-à-dire mettre tout sur la table, mettre tout sur le plateau, mettre toutes les formes artistiques, mettre tous les courants d'esprit, mettre tout ce que les gens ont envie de dire, et à un moment, à partir de ça, créer une union, une réunion, voilà. Et sans doute un amour. Et puis sans doute un désamour aussi. On n'est pas là pour tous s'aimer.
Donc on aura des nouvelles plus tard de ce que vous préparez pour l'ouverture d'MP 2018 à Martigues.
Oui, on prépare. Martigues sera une des villes partenaires de MP 18. Donc on est déjà en train d'y travailler. Évidemment, il y a la programmation des Salins qui est à partir de février. Plusieurs spectacles sont sur le thème de l'amour, mais on prépare aussi cette grande fête d'ouverture et avec les enfants le 14 février et dans la ville le 17 février avec notre artiste résident de la Vallée Bidifono dont on parlait tout à l'heure.
Une dernière question. Qu'est-ce qui vous anime en tant que citoyen quand vous n'êtes pas dans votre théâtre, Gilles Boucart ?
Je suis toujours dans mon théâtre. Non, je pense que ce qui m'anime, j'irais, dans mon théâtre, c'est que justement je suis citoyen. C'est-à-dire que tout ce que j'essaie de faire ici, c'est pas uniquement en tant que directeur de théâtre, c'est en tant que citoyen. Donc tout ce que j'ai pu dire depuis et tout à l'heure, c'est aussi ce que j'essaie de vivre dans la vie, ce qui m'anime dans la vie et que j'essaie de ramener dans mon métier. Et c'est vrai que les passerelles, moi, entre ma profession et ma vie sont très minces. C'est d'ailleurs parfois un problème, hein. Donc du coup, on est beaucoup plus, c'est pour ça que j'ai plaisanté plus au théâtre, beaucoup trop peut-être, mais pas moi, parce que je m'éclate ici en tant que citoyen et en tant que Gilles Boucard.
Et qu'est-ce qui est sacré alors pour vous ?
Alors ce qui est sacré pour moi, c'est l'espace dans un théâtre, c'est la scène. Pour moi, c'est vraiment un espace sacré où à un moment, j'invite tout le monde à un jour avoir l'occasion de traverser un plateau de théâtre. Et il y a quelque chose qui se dégage, qui est incompréhensible, mais où on est vraiment, on sent tout ce qui s'est passé sur cet espace, tous les artistes qui ont nourri cet espace, même s'ils ont disparu depuis des années, ils sont toujours là. Et cet espace que je ne fréquente jamais, ni avant ni après un spectacle, parce qu'il est l'espace des artistes.
Radio Grenouille.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée à cappella. Sur le piano, si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids.
À réécouter en podcast sur le site de la Grenouille www.radiogrenouille.com.